Europe Matin.
Fanny Marceau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Europe 1, un bonheur d'être avec vous ce matin. Que vous soyez déjà sur la route ou à peine réveillé, on vous tend le café, chaud comme un soleil. On verra dans un instant avec Anissa Haddadi si le soleil sera dans nos cœurs ou dans le ciel. En tout cas, au menu ce jeudi 5 mai, un triste anniversaire. On va avoir mal au cœur aujourd'hui parce que c'était il y a 30 ans. La catastrophe de Furiani en Corse. 19 morts, 2357 blessés. Ce devait pourtant être une belle journée. Affiche à la David contre Goliath, le petit sporting club de Bastia alors en D2. Affronte en demi-finale la Coupe de France, le monstre marseillais, sans doute la meilleure formation française de l'époque. Des milliers de supporters, la presse, les élus locaux, tout le monde est au rendez-vous. Mais 7 minutes avant le coup d'envoi, la tribune nord du stade s'effondre comme un château de cartes. Elle avait été montée en 10 jours à peine. Sur cette tribune, il y avait Jacques Vendroux, aujourd'hui au service des sports d'Europe 1. Il a été blessé dans le drame. À 6h10, il nous racontera son 5 mai 1992. Ce soir, l'OM qui affronte Feyenoord en demi-finale, retour de la Ligue Europa Conférence, a prévu un hommage avant le match. On en parlera. À 5h45, on ira prendre un bol d'air à la montagne. Après 2 ans à vide, les clients sont revenus dans les stations de ski cette année. Fin de saison dimanche pour la station de Val Thorens. On fera le bilan avec son directeur Vincent Lalanne. Enfin, la partition d'Omblin en 1966 sur l'antenne d'Europe numéro 1. On mise tout sur ce beatnik qui ressemble à Sagan.
C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait
Michel Polnareff, aussitôt découvert, aussitôt vedette numéro 1, rendez-vous à 6h20. Vous avez l'essentiel du programme, on va d'abord prendre des nouvelles du temps. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bon, après les orages d'hier, est-ce que ça se calme un peu aujourd'hui?
Oui, ça a pas mal, quand même le tonnerre a grondé beaucoup dans l'est de la France, hein, du côté de la Franche-Comté et de l'Alsace hier. Alors la journée, elle est encore pas mal mitigée aujourd'hui, hein. On a toujours des orages de prévus cet après-midi sur les Alpes et sur le relief Corse. Ces orages pourront, comme hier, être assez forts avec de la grêle, du vent et ils déborderont en pleine, hein, ces orages. Alors c'est une nouvelle fois à l'est, en Champagne, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, que le temps sera le plus agité sous un ciel menaçant. Cet après-midi, c'est le retour des petites averses sur le quart nord-est.
On en a besoin.
Des averses orageuses, la terre en a besoin, c'est vrai que ça va faire du bien. C'est orageux aussi en Provence, sur la Corse et la Côte d'Azur. C'est plus ensoleillé sur le Languedoc-Roussillon. Et puis sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre, on a un temps mitigé, c'est-à-dire que comme hier, c'est partagé entre nuages éclaircis avec un ciel, vous savez, gris très clair, presque blanc, qui stagne toute la journée. À l'ouest, de la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, c'est printanier. Ce matin, on a 4 degrés à Montluçon, 7 à Caen et Limoges, 10 à Paris et jusqu'à 15 degrés à Perpignan.
Merci beaucoup Anissa, très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Morts, plus de 2000 blessés, 30 ans jour pour jour après le drame de Furiani. Que reste-t-il de la pire catastrophe du sport français? Des plaies toujours pas refermées et un devoir de mémoire pour les victimes et leurs familles. Le retour des frondeurs au PS après l'accord avec les Insoumis qui doit être voté ce soir par les instances dirigeantes du parti. Déjà une victime, Bernard Cazeneuve a claqué la porte du parti. Les militants, eux, hésitent. Et puis OM Feyenoord, demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence ce soir sur Europe 1. Entretien exclusif dans ce journal avec le président de Marseille, Pablo Longoria. Son rêve, offrir un titre européen à ses joueurs.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Le journal Alban Le Prince, bonjour.
Bonjour à tous. Furiani, cette lettre qui résonne et qui nous rappelle forcément ce drame il y a 30 ans. Nous sommes le 5 mai 1992. Le SC Bastia doit affronter l'OM en demi-finale de la Coupe de France de foot. Match si attendu qu'une tribune provisoire est spécialement construite pour l'occasion. Mais voilà, juste avant le coup d'envoi de la rencontre, une partie s'effondre. Bilan 19 morts, plus de 2000 blessés. 30 ans après, difficile, voire impossible reconstruction pour les survivants et les familles des victimes qui perpétue la mémoire de la catastrophe. Zoé Pallier les a rencontrés.
sur cette pierre de marbre noir. Le troisième nom est le nom de ma sœur.
Marie-Pierre, ce nom, Corinne l'a crié pendant de longues minutes le 5 mai 92, avant de découvrir sa sœur sous un enchevêtrement de ferrailles et de poutres, face contre terre. À quelques mètres seulement, une croix enveloppée d'écharpes de supporters sert désormais de monument.
Ça n'a jamais été ni déplacé, ni touché. C'est important pour nous, parce que c'est toujours la même chose. Le temps n'apaise rien.
Un drame familial et collectif, estime Jean-Luc, venu se recueillir devant la stèle, exposé aux clameurs qui s'échappent du stade.
C'est un devoir de mémoire. Et voilà, et puis bon, on aime notre club, le Sporting Club de Bastia aussi. Ça fait partie de son histoire. Pas la meilleure, mais ça fait partie de son histoire aussi.
J'étais tout en haut, là, 17 mètres de chute.
C'est mon corps qui s'en souvient, soupire Paul, 30 ans, qu'il vit dans un fauteuil roulant.
Ça, la mémoire, c'est au quotidien, on vit avec ça, quoi. C'est important de venir, de ne pas oublier cette date.
Un sourire illumine pourtant son visage quand des dizaines d'enfants s'approchent de lui tour à tour, car c'est le but des victimes et de leurs familles, cultiver la mémoire de Furiani pour ceux qui n'ont pas vécu le 5 mai 92.
Zoé Pallier, pour ne pas oublier, ce soir lors du match OM Feyenoord en demi-finale de Ligue Europa Conférence, une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi et les deux équipes porteront un brassard noir.
Il est 5h03 sur Europe 1, les législatives. Désaccord sur l'accord entre socialistes et insoumis pour l'Union Populaire.
Il doit encore être validé par les 300 membres du Conseil National du Parti Socialiste ce soir. Colère de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre qui claque la porte. Illustration d'un PS plus que jamais fracturé, divisé, comme à Lille où l'Union est loin de faire l'unanimité auprès des militants. Reportage de notre correspondant Maximilien Carlier.
Devant la Fédération du Nord du PS, Monique, elle a toujours mis un bulletin socialiste aux élections, mais aujourd'hui, elle hésite car cette union de la gauche, elle n'en veut pas.
Je ne voterai pas socialiste s'il y a un accord. Parce que je ne veux pas sortir de l'OTAN, je ne veux pas sortir du nucléaire, je suis farouchement pro-européenne.
Pour toutes ces raisons, je suis contre, affirme-t-elle. À quelques mètres de là, Annie, militante PS depuis 1974, le rassemblement des gauches, en 2022, elle n'y croit pas.
Moi, je l'ai vécu en 81, donc oui, mais pas en ce moment. Pas en ce moment et pas avec Mélenchon. Je n'ai pas pu oublier sa façon de traiter les policiers quand il y a eu dans ses bureaux une perquisition. C'est quelqu'un d'incontrôlable.
Le problème, c'est qu'on est devenu presque rien, m'a-t-elle confié, et que cette union de la gauche, malgré tout, c'est peut-être le seul moyen d'exister. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et Bernard Cazeneuve n'est pas le seul ténor socialiste à s'opposer à cette union. François Hollande récuse, selon ses mots, l'accord entre le PS et LFI.
Les salaires n'augmentent pas, mais le carburant est toujours plus cher. Le caddie de course de plus en plus hors de prix. On l'a tous constaté, hein, sans exception.
Ouais, l'inflation, ce n'est pas un mythe. Hein. Plus 4,8% pour les produits alimentaires le mois dernier. Alors forcément, on cherche des alternatives, des bons plans pour que le ticket de caisse ne fasse pas trop mal au moment de payer. Tous les moyens sont bons et ça, Maud Descamps, les enseignes de grande distribution l'ont bien compris.
Oui, depuis quelques semaines, l'utilisation des bons d'achat ou des cagnottes sur les cartes de fidélité sont plus fréquents lors du passage en caisse. C'est ce qu'observent plusieurs enseignes de la grande distribution contactées par Europe 1. Des clients qui se tournent aussi davantage vers les produits en promotion. Émilie Maillère est spécialiste des produits de grande consommation à l'Institut Héry.
Sur la promotion, on a le sentiment que ça commence un peu à grimper, mais je dirais qu'aujourd'hui, la chose la plus claire que l'on voit, c'est ces Français qui se tournent vers les premiers prix. Sur le premier trimestre de l'année 2020, au global, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation il baisse de 1,8% et dans le même temps, le chiffre d'affaires des marques premier prix, lui, il augmente de 8%.
Des consommateurs à la recherche de la moindre économie qui passent parfois par la chasse aux petites pièces jaunes au fond du porte-monnaie pour compléter le budget des courses. Patrick Debac est le directeur général de Coinstar France, des machines qui permettent de transformer les pièces jaunes en bons d'achat dans les hypermarchés.
On a pu observer une augmentation des sommes comptées par nos bornes de 18% et une augmentation du nombre de bons d'achat imprimés de 20%.
Et certains consommateurs n'hésitent pas à se déplacer dans plusieurs enseignes pour trouver les meilleurs prix.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Elle était venue pour soigner, elle a fini par agresser. C'est ce qui est reproché à la femme accusée de s'en être prise à un pompier en marge des manifestations du 1er mai à Paris.
Placée hier sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès le 1er juin devant le tribunal correctionnel de Paris, cette salariée en CDI, mère de deux enfants, fait valoir son droit d'obtenir le renvoi de son procès. Pour l'une de ses avocates, maître Alice Becker, sa garde à vue et la médiatisation de l'affaire ont détruit sa vie.
Une plainte va être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée. Ça a miné madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. Vous avez tous vu ces images, nous aurons sans doute une interprétation peut-être un peu différente. On s'en expliquera directement auprès du tribunal et pas auprès des médias.
Dans le camp adverse, l'avocat du pompier qui défend aussi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qui s'est constitué partie civile, maître Jérôme André, attend impatiemment les explications de l'accusé.
Le feu que le pompier essayait d'éteindre était un feu dangereux dans le sens où il allait se propager à un immeuble juste à côté. Et c'est en ça que c'est un comportement extrêmement dangereux, au-delà du fait qu'ensuite elle se permette de frapper ce pompier qui n'est là que pour éteindre le feu, sauver des vies. Les pompiers en ont clairement ras-le-bol de ce genre d'agression gratuite.
Des propos recueillis au micro européen de Caroline Baudry.
En Ukraine, la Russie annonce un cessez-le-feu de 3 jours à partir d'aujourd'hui dans la Syrie Azovstal de Mariupol.
Le ministère de la Défense russe annonce également l'ouverture de couloirs humanitaires alors que Moscou continue de pilonner le reste du pays.
5h08, on termine ce journal avec du foot. Liverpool-Real Madrid, ce sera l'affiche de la finale de Ligue des Champions le 28 mai au Stade de France.
Oui, car le Real Madrid s'est imposé hier soir sur Manchester City avec une victoire 3-1. Une fois encore, l'homme du match, c'est Karim Benzema qui a offert la qualification madrilène dans le temps additionnel. Un match fou sur lequel revient Thibaut Courtois, le gardien du Real.
Tu savais que l'arbitre vient de mettre 6 minutes et 6 minutes où est possible. Et avec cette équipe, je crois, Paris l'a vu aussi. On a mis le 2-1, juste une minute après, on a fait le 3-1 contre eux. Donc c'était un peu la même chose aujourd'hui. Et dans la prolongation, on savait qu'on était mieux qu'eux physiquement et qu'on avait le momentum pour gagner, quoi. On s'entraîne aussi beaucoup tactiquement, tu vois, et on était prêt pour ce match. Tactiquement, je crois qu'on a défendu mieux. J'ai dû faire aujourd'hui des parades que la semaine passée je ne pouvais pas faire. Donc tout le monde a donné tout de soi-même et on savait que si on jouait le match ici à domicile avec juste 1-0, on pouvait gagner ce match et c'est ça, quoi.
Et ce soir, autre affiche européenne, Marseille-Feyenoord en demi-finale, retour de la Ligue Europa Conférence.
Ce sera dans un vélodrome bouillant, hein, car l'OM compte bien rattraper son retard avant ce match. Rencontre exclusive sur Europe 1 avec le président espagnol de Marseille, Pablo Longoria. Il a un rêve, offrir à son club un nouveau trophée européen.
J'aimerais bien. Moi, j'espère une finale, mais j'ai rêve de gagner.
Surtout gagner.
Les finales, je ne joue pas. Les finales, c'est gagner.
Et pour ça, ça serait mérité, pour toute la saison que vous avez tous réussi ici, que l'OM gagne un trophée.
Avant, il faut faire un match solide, un match sérieux, demi-finale. C'est un rival difficile, Feyenoord. Le rêve toujours qu'on a, c'est de gagner. Mais avant, il faut être réaliste. C'est compliqué. Et je crois qu'avec la passion, on a un coup à jouer.
Pablo Longoria, invité exceptionnel d'Europe 1, OM Feyenoord, demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence, à suivre ce soir sur Europe 1, en direct et en intégralité à partir de 20h.
Merci Alban Le Prince pour le journal. Place aux courses. À 5h10, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, il y aura des courses cet après-midi à Lyon-Paris et mon pari gagnant sera le 307, Mademoiselle Rose. Très bien née, cette fille de l'étalon Chala s'est produite à 3 reprises depuis le début de sa carrière, en terminant jamais plus loin que 4e, sans toutefois pouvoir remporter sa première victoire, une lacune qui pourrait bien être comblée dès cet après-midi, car vu l'opposition du jour, mais aussi sa condition physique actuelle optimale, je la crois capable de justifier enfin la confiance sans réserve affichée par son entraîneur Fabrice Chappet. Notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Lyon-Paris, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 7, Mademoiselle Rose.
Merci Thierry, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure et dans un instant, le pressing, ne bougez pas.
Europe 1, Philippe Vandel.
Tout à l'heure dans Culture Média, le professeur Didier Raoul qui publie un livre, un journal de guerre Covid-2019, mais peut-être aussi une guerre contre les médias. C'est notre sujet, ça sera notre question. Et puis, le chanteur-rappeur Black M pour son nouveau single Outfit, peut-être le futur tube de l'été. On va aussi parler de la tournée de Section d'Assaut qui se reforme.
Europe 1, Culture Média.
Alors à tout à l'heure, 9h sur Europe 1.
Europe 1.
Fanny Marceau.
5h11, l'heure de votre pressing. Johan Tritz nous a rejoint. Bonjour Johan.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux, les curieuses dérives d'un chirurgien esthétique à la une du Parisien aujourd'hui en France. Le docteur Benjamin Azoulay, l'ami des stars de la télé-réalité, dans le viseur de 6 femmes, dont 2 influenceuses. Elle l'accuse d'avoir mutilé leur corps. J'attaquerai toute personne qui osera porter plainte à ma réputation, répond le médecin. De la politique à la une de l'opinion, Mélenchon, du vote utile à la mainmise idéologique. Le leader insoumis est parvenu à rassembler derrière lui Verts, communistes et socialistes. La gauche, désormais, c'est lui, écrit l'opinion. Mais le Conseil national du PS doit encore entériner l'accord ce soir et ça s'annonce plutôt tendu. Et puis en Inde, le thermomètre devient fou, titre La Croix ce matin. Des millions de personnes soumises à une chaleur record depuis plusieurs jours en Inde et au Pakistan. Services hospitaliers saturés, écoles fermées. Les conséquences de ces températures insoutenables sont extrêmement lourdes pour la population. Voilà pour les unes. Johan, quels articles avez-vous retenus ce matin ?
D'abord, Fanny, est-ce que vous avez l'heure ?
5h12 et 37 secondes.
Merci, parce qu'il faut que je commence à m'habituer. Vous savez pourquoi ?
Dites-moi.
Si je vous fais écouter ça.
Au quatrième top, il sera...
Là, ça vous parle un petit peu
plus.
Oui,
l'horloge parlante.
La célèbre horloge parlante qui va disparaître le 1er juillet prochain. C'est l'opérateur Orange qui l'a annoncé hier. Ce système automatisé qui donne l'heure à toute personne composant le 36,99 écoutant 1,50€ plus le prix d'un appel.
Ça fait cher l'heure.
Oui, ça fait cher l'heure, mais au moins là. Oui. Un service qui faisait partie du patrimoine industriel est né le 14 février 1933 et qui ne fêtera donc pas ses 90 ans. Pour la petite histoire, au départ, c'est un agent de l'Observatoire de Paris qui répondait aux appel et ça donnait ça.
Au quatrième top, il sera exactement 2h00.
Un peu ancestral, mais en tout cas, le succès fut si fou que sur les 140 000 appels passés cette année-là, seulement 20 000 ont eu le droit à une réponse. Puis Ernest Esclangon, astronome directeur de l'observatoire et à l'origine du concept, a inventé un système automatisé. On aura ensuite le droit à une voix enregistrée par des comédiens à partir de 91, date à laquelle France Télécom signe un partenariat avec l'Observatoire de Paris pour reprendre le flambeau. Aujourd'hui, l'outil de quatrième génération assure la diffusion du temps légal en France avec une précision de l'ordre de 10 millisecondes.
Wow.
Et les différents journaux parlent bien sûr de la fin de cette tradition. Le Progrès titre « L'heure de l'horloge parlante a sonné oh. ». L'horloge parlante arrête de parler pour le Parisien. À son 80e anniversaire en 2013, l'horloge parlante totalisait tout de même 2 524 millions et 608 000 secondes d'appel. Ça aussi, c'est précis.
Très très précis. Fin d'une tradition et début d'une nouvelle à Grenoble.
Oui, c'est une histoire racontée dans Ouest-France, la ville qui vient d'accueillir une cabine téléphonique, oui.
Ah oui,
une première mondiale alors qu'elle tend à,
ben
plutôt
oui,
à totalement disparaître. C'est un collectif contre la numérisation de nos vies et l'Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques qui en sont à l'origine. Le but, réduire la dépendance au smartphone. Le 25 mars dernier, des membres ont bricolé dans un parc une cabine à base de métal et de bois. Même si la mairie n'a pas autorisé le projet, elle est aujourd'hui toujours fonctionnelle et une dizaine d'appels est passée chaque jour. Le record est même de 70.
Ah oui.
L'objectif est maintenant d'en implanter 22 dans la ville, explique le collectif. Le projet est aujourd'hui entre les mains de la municipalité qui l'a retenu dans le cadre de son budget participatif. Une deuxième étape de vote est en cours.
Comme quoi on revient beaucoup en arrière en ce moment. Merci beaucoup Johan. Alors puisque vous avez donné le ton avec le voyage dans le temps, je vais vous emmener encore plus loin dans le passé. Il y a environ 70 millions d'années. Nous sommes en Amérique du Sud, là où se trouve aujourd'hui la Patagonie. Alors en ce moment, il y fait entre moins 2 et 10 degrés, mais à ah l'époque, oui, c'était une région tropicale avec une forêt luxuriante. Bon, on y croisait toutes sortes de bestioles à plumes et à écailles, aux dents immenses, aux cornes et collerettes improbables, des tricératops, des gallimimus, parasaurolophus, et puis plein de trucs en or, oviraptor, ankylosaure, vélociraptor, tarbosaure. Et puis, ombre de la mort, ça aussi c'est en or. C'est son petit nom, l'ombre de la mort.
Ça fait peur.
C'est un mégaraptor qui devait mesurer 9 ou 10 mètres de long. Vous pouvez avoir peur, il pesait environ 6 tonnes, charmant animal. Là, vous avez vraiment peur.
Oui.
Bref, dinosaure impressionnant, donc découvert en 2019. Son fossile a été examiné pendant plus de 2 ans et les résultats de ses analyses ont été publiés il y a quelques jours dans la revue Nature. C'est le Huffington Post qui nous en fait le résumé. D'abord, on découvre le nom exact de notre ami, baptisé depuis Mahip Macrothorax. Alors Mahip, c'est le nom d'une entité maléfique dans la mythologie argentine, ça plante bien le décor. On découvre aussi qu'il devait avoir l'art de la manucure, hein. 3 doigts, 40 cm de griffes. Ça fait ça fait du joli vernis. Et les chercheurs de nous préciser que ça servait sûrement à déchiqueter les proies. Bon appétit. Enfin, pour estimer sa taille, on est parti des parties les mieux conservées de son corps, donc la queue, le bras, les vertèbres géantes évidemment. De quoi imaginer son thorax qui devait mesurer 1m20, c'est la taille d'un enfant de 5 ans,
oui.
1m20 de large pour 1m50 de long. Ça fait quand même un gros thorax. Alors je sais pas vous, mais moi je suis bien contente qu'on ne vive pas à la même époque. Maïp, on peut l'appeler par son petit nom maintenant qu'on se connaît bien, Maïp a été le maître de cette région jusqu'à ce qu'une météorite s'abatte sur le Mexique et plonge la planète entière dans le noir il y a environ 66 millions d'années. La preuve que même quand on est un grand costaud, surnommé l'ombre de la mort, c'est presque prétentieux, face à la nature, finalement, on n'est que des ombres. Ce mégaraptor est surnommé l'ombre de la mort et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire... sur le huffingtonpost.fr.
On a des frissons.
Un peu, oui.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
Il est 5h17, vous êtes remis de vos émotions et les principaux titres de ce jeudi, c'est avec Alban Le Prince.
30e anniversaire aujourd'hui de la pire catastrophe du sport français, l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani. 19 morts, 2357 blessés, la Corse se souvient. Ce soir, une messe sera dite à 18h à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Hommage aussi ce soir lors du match OM Feyenoord en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Une minute de silence sera respecté avant le coup d'envoi. Tous les joueurs porteront un brassard noir. Les ténors du PS vont debout contre l'accord entre socialistes et insoumis pour l'Union Populaire en vue des législatives. Il doit encore être validé par le Conseil National du PS ce soir, mais Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, a d'ores et déjà claqué la porte du parti hier soir. François Hollande récuse de son côté cet accord. Et puis en Ukraine, la Russie annonce un cessez-le-feu de 3 jours à partir d'aujourd'hui dans la Syrie Azovstal de Marioupol. Le ministère de la Défense russe annonce également l'ouverture de couloirs humanitaires alors que Moscou continue de bombarder le reste du pays.
Europe 1.
5h18, Initiative en France, votre rendez-vous bon plan.
Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport, oui, parce qu'aujourd'hui, on va en région parisienne. J'espère que vous êtes bien en forme. On va faire du sport à la maison avec Sporty Peppers et sa fondatrice. Bonjour Nathalie Paquet.
Bonjour.
Sporty Peppers, c'est une plateforme pour bouger. On fait du sport en jouant devant un écran, un peu comme ce que font les Wii, les Switch et autres PlayStation. Sauf que là, pas besoin de console. Bon, alors comment ça marche ?
Eh bien, c'est très simple. Effectivement, on fait des jeux vidéo sportifs. On va utiliser son smartphone qui va capter nos mouvements et qui va les retransmettre dans le jeu sur l'ordinateur. Notre avatar va faire exactement les mêmes mouvements que nous.
Mais je ne savais pas que mon téléphone pouvait faire ce genre de choses.
Ah, il a une caméra et après derrière on a un algorithme de reconnaissance de mouvements qu'on a développé qui va permettre justement de récupérer les mouvements et des mouvements sportifs pour bouger, pour jouer.
Et donc il y a juste à télécharger, c'est quoi, une application ?
Alors pour jouer, il faut télécharger l'application sur son ordinateur, actuellement sur Steam qui est une plateforme de jeux vidéo. Et ensuite il faut télécharger, mais on est guidé pas à pas dans l'application qu'on a sur son ordinateur pour télécharger l'application sur son mobile via un code QR qui est dans l'interface du jeu.
Et ensuite on a forcément besoin de son ordinateur et de son téléphone pour jouer, on peut pas faire ça n'importe où.
À l'heure actuelle, on a besoin des deux pour une raison simple, pour être très grand public. On n'a pas besoin du PC de gamer et pas besoin du smartphone dernier cri. Et à partir de juin, très certainement, nous serons aussi sur mobile. On aura des jeux très simples sur mobile.
Et alors, qui dit mobile, dit forcément réseau. On peut jouer en réseau avec des amis, par exemple ?
Alors oui, déjà maintenant, on va pouvoir jouer à plusieurs. Exemple, face libéro, on va courir, sauter, squatter. On est sur une ligne de départ, on est à 5 et donc on peut jouer à plusieurs.
Alors, vous proposez plusieurs jeux. C'est vous qui les pensez, qui les élaborez ?
Tout à fait. On a une équipe en interne de game designers et de développeurs qui vont penser les jeux avec l'intensité sportive. On a des jeux plus ou moins sportifs. Et en fonction, après, on va développer un univers de jeu qui va répondre à cette intensité sportive.
Et alors, pas de professionnels de sport ou de santé pour vous accompagner ?
Tout à fait. Et on travaille avec des coachs et l'idée, c'est vraiment de gamifier le mouvement sportif. Par exemple, face libéro, on va courir, sauter, squatter, on doit aller assez vite. Donc, l'univers est assez simple. Et quand on a plus de temps, Winter Rush, on fait des mouvements gauche-droite, etc., l'univers est plus développé.
Donc chaque jeu a des exercices complets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone différente du corps à travailler par jeu. Dans un seul jeu, on peut tout faire.
Oui, la caméra va capter plutôt le haut du corps. Donc pour l'instant, les mouvements, c'est courir, sauter, squatter, mouvement gauche-droite, voilà. Donc effectivement, c'est plusieurs mouvements pour pas que ça soit trop répétitif dans un jeu.
Comment vous est venue l'idée de monter cette plateforme ?
Eh bien, la Covid. Avant la Covid, on faisait un escape game sportif. Donc on était déjà dans le domaine du jeu et de la gamification. La Covid nous a complètement stoppés dans notre activité. Et on s'est surtout dit comment est-ce qu'on peut accompagner les gens à l'heure actuelle. Ils sont à la maison pas forcément connectés entre eux. Justement, le sport à domicile est plutôt une pratique solitaire, et on s'est dit on va amener le côté multijoueur du jeu vidéo en réseau aux personnes qui veulent faire du sport et les accompagner dans leur pratique. Et on s'est rendu compte qu'on est dans une reconfiguration de société, donc que c'est une offre qui plaît même sans la Covid.
Ça peut servir aussi aux mamans qui n'ont pas le temps d'aller en salle de sport par exemple et qui peuvent faire aussi du sport à la maison et en famille du coup.
Exactement, parce que nos temps de loisirs sont très fractionnés, donc on peut justement faire Sporty Papers n'importe quand, n'importe où, et avec la durée qu'on souhaite et l'intensité sportive qu'on souhaite.
Et vous avez beaucoup de joueurs aujourd'hui ?
Alors on a lancé très récemment, on a lancé début avril, donc on a à peu près 250 joueurs actifs sur notre plateforme, mais les taux de téléchargement sont importants. On a eu un premier jeu qui est gratuit, Facile Béro, celui dont je vous ai parlé. Et ensuite, on achète les deux autres jeux à l'heure actuelle à 3,99€. Et on va pouvoir jouer en réseau.
Et le téléchargement, lui, est gratuit.
Oui, voilà. On était à la Gamer Assembly le week-end de Pâques et on a eu plus de 400 joueurs qui ont joué, qui étaient ravis que ce soit des adultes ou des familles qui jouaient ensemble.
Vous faites quand même une sacrée concurrence à tous ces jeux que j'ai cités au tout début, les Wii, les PlayStation, les Switch. C'est ça votre cœur de cible finalement ?
Alors, c'est effectivement quand on a développé ce produit, on s'est dit qu'il y avait la Nintendo, il y avait Swift, et on s'est dit que notre caractère différenciant, c'était vraiment de se dire qu'on allait utiliser ce qu'ont les utilisateurs, c'est-à-dire le téléphone et l'ordinateur, que c'est un jeu simple d'accès, qu'on va pouvoir jouer en réseau. Et on a aussi une offre pour les entreprises, pour les organismes sportifs, où on va pouvoir mettre leur marque dans nos jeux, leur offrir leur propre classement aussi et atteindre leur audience.
Cette plateforme, elle est disponible pour le moment en France. Est-ce qu'elle est disponible aussi à l'international ? On peut jouer n'importe où dans le monde ?
Alors, à l'heure actuelle, elle est en français et en anglais. Et on peut jouer de partout.
C'est fantastique. Merci beaucoup, Nathalie Paquet. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la plateforme Sporty Papers. Bonne journée.
Vous aussi, bonne journée.
Europe Matin, Fanny Marceau.
5h28, bon début de matinée sur Europe 1. Suivre le journal de Christophe Lamar. Et puis on ira sur les pistes enneigées où s'achève la saison de ski. Et c'est inédit depuis 2 ans. On a le sourire cette année dans les stations. Car les clients sont revenus et que l'horizon semble se dégager. Vincent Lalanne, le directeur de la plus haute station d'Europe, Val Thorens, est notre invité à 5h45. Anissa Haddadi, on parle de ski, mais en vérité, ça va rester gris aujourd'hui quand même.
Oui, ça va rester gris. On a des nuages qui dominent encore, surtout des Ardennes jusqu'à l'Alsace et même jusqu'aux Alpes du Nord. C'est gris à l'est, vous l'avez compris. C'est gris ce matin également sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, le centre-Val de Loire, la région parisienne, sur le grand quart nord-ouest. Attention aussi au brouillard ce matin. On a des brouillards en région parisienne notamment. Soyez prudents sur les routes. Cet après-midi, le ciel reste variable entre la Normandie et la Gironde. On a une alternance de nuages et d'éclaircies, mais on aura un petit peu plus d'éclaircies. C'est mitigé sur le nord et l'Île-de-France, très agité à l'est avec encore des orages entre le Jura et les Alpes, des orages de grêle aussi en plaine. La Corse est également touchée par ces pluies et elle en avait besoin. 3 degrés à Aurillac ce matin, 5 pour Orléans, 9 à Colmar et Saint-Étienne, 10 degrés à Paris, 12 à Bastia et 15 ce matin pour Perpignan.
Merci Anissa. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
À la une de ce jeudi, l'important, c'est l'attente. Emmanuel Macron maintient le gouvernement en place jusqu'au 13 mai minuit. Pour connaître le nom du futur Premier ministre, il faudra donc patienter. Mais dans les ministères, l'heure est déjà au relâchement, vous l'entendrez. Il y a 30 ans, la plus grande catastrophe du football français plongeait la Corse dans l'horreur. 19 morts, plus de 2000 blessés dans l'effondrement d'une tribune du stade Furiani. L'ombre de Furiani qui planera d'ailleurs ce soir au-dessus du Vélodrome. Les Marseillais, acteurs involontaires du drame, rendront hommage aux victimes à l'occasion de la demi-finale retour de Coupe d'Europe contre Feyenoord.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Et le journal, c'est avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Pour l'actuel gouvernement, les vacances attendront le 13 mai, date officielle de la fin du quinquennat. Le porte-parole de l'exécutif, Gabriel Attal, l'a confirmé hier à l'issue du Conseil des ministres. Un délai qui laisse encore un peu de temps à Emmanuel Macron pour trouver un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État doit aussi trancher la question des législatives. Une première salve d'investiture devrait être publiée dans la journée. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, Jacques, dans les ministères, il y a comme un petit parfum de relâchement.
Oui, même si l'Élysée assure que tout le monde est au travail, que chaque membre du gouvernement reste concentré à sa tâche, il plane bien un air de vacances, de fin de cycle dans certains ministères. L'heure est au pot de départ, comme celui d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, qui a déjà annoncé son souhait de se mettre en retrait de la vie politique. Des pots de départ parfois bien arrosés pour certains conseillers qui relâchent la pression cette fin de quinquennat. Pendant ce temps, d'autres rangent leurs dossiers, comme le ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui a publié une vidéo sur le réseau social TikTok, une pile de cartons sur son bureau. Le remaniement pas attendu avant une dizaine de jours, commentaire du ministre tout en ironie. Si ça continue, même Rihanna va sortir un album avant, car le relâchement laisse peu à peu place à l'impatience. Confidence d'un conseiller ministériel, c'est le grand flou maintenant. On a hâte que ça se termine.
Jacques Serret.
Et si le temps semble suspendre son vol au-dessus de la Macronie, c'est aussi en raison de la campagne pour les élections législatives. À gauche, la météo tourne à l'orage au Parti Socialiste.
Et le Conseil national du PS se prononcera ce soir sur l'accord conclu avec la France Insoumise. La direction se dit confiante, mais la colère gronde. L'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve a rendu sa carte du parti et claqué la porte. L'ancien président François Hollande récuse l'accord sur le fond et les circonscriptions attribuées à son camp. Quant à la patronne des députés socialiste, eh bien Valérie Rabault annonce de son côté qu'elle ne soutiendra pas cette alliance.
En Ukraine, un cessez-le-feu de 3 jours décrété autour de la Syrie de Mariupol.
Il entre en vigueur à partir de ce matin entre 8h, heure de Moscou, et jusqu'à 18h. Créneau maintenu jusqu'au 7 mai inclus pour permettre l'évacuation des civils toujours bloqués dans l'usine, dernier bastion de résistance ukrainienne. À Bruxelles, le projet européen d'embargo progressif sur le pétrole russe est bloqué par la Hongrie. Sa mise en place suppose l'unanimité des 27 pays membres.
En France, nous sommes le 5 mai, il y a 30 ans, jour pour jour, le drame de Furiani endeuillait la Corse.
La pire tragédie qu'a connue le football français à ce jour. Le 5 mai 1992, Bastia s'apprête à recevoir Marseille en demi-finale de la Coupe de France. Le match n'aura jamais lieu. À quelques minutes du coup d'envoi, une tribune provisoire du stade Furiani s'effondre. Bilan 19 morts et plus de 2000 blessés. L'enquête va buter sur la responsabilité des élus locaux et de l'État. Le procès, lui, laissera un goût amer aux familles de victimes. Zoé Pallier.
Des prévenus qui nient en bloc toute responsabilité et une seule condamnation à de la prison ferme pour l'ingénieur en charge des travaux. Une parodie de justice, fustige Corinne, qui a perdu sa sœur à Furiani. Un trait de crayon noir souligne son regard furieux.
30 ans après, la même colère, la même haine. Parce que ça aurait permis de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Seule la justice pouvait nous apporter ces réponses. On ne les a pas eues, on ne les aura jamais.
La déception était palpable avant même l'arrêt de la cour d'appel, se souvient Angéline Tomasi.
Ici, c'est le jugement de 212 pages.
Avocate d'une quarantaine de parties civiles lors du procès.
Manifestement, on n'a pas retenu la volonté démentielle des organes du football de vouloir que ce match se déroule à Bastia. Donc le caractère involontaire faisait que les peines ne pouvaient pas être ce que les gens escomptaient.
D'autant que certaines familles ont assimilé les peines avec sursis à des absolutions, poursuit l'avocate. Un sentiment d'injustice et une plaie qui reste donc ouverte 27 ans après le procès.
Zoé Pallier, depuis l'an dernier, la loi française interdit l'organisation de matchs de football le 5 mai. La demi-finale de Coupe d'Europe prévue ce soir entre Marseille et Feyenoord étant une longue compétition européenne, elle n'entre pas dans le cadre de cette loi.
Et on revient juste après le journal sur la catastrophe de Furiani dans Le Jour Où avec l'Ordre d'Autriche. 5h34, comment éviter l'engorgement des urgences tout en soulageant la médecine de ville? En Bretagne, les pharmacies expérimentent la prise en charge des petits bobos du quotidien.
Oui, on parle bien sûr des petits mots comme des rhumes, par exemple. Les patients ont trop souvent le réflexe d'aller à l'hôpital, faute aussi de trouver un médecin disponible. La Bretagne teste donc un nouveau dispositif OSIS, Orientation Système de Soins. Il s'agit d'encourager les malades à pousser la porte d'une pharmacie avant toute autre démarche. Reportage Charles Guyard.
Avec les questions, on arrive à savoir s'il y a un risque ou pas d'angine bactérienne.
Depuis quelques mois, la pharmacie de Véronique Prier est équipée d'un logiciel qui permet, en fonction des réponses des clients, de déterminer la marche à suivre. Angine bactérienne, direction le médecin. Et si c'est viral ?
Il n'y a pas de problème, on s'en occupe. Très bien. Avec la phytothérapie.
Dans cette officine de Lorient, les clients qui le souhaitent sont donc soumis à un échange de 15 minutes. Soit c'est grave et cela nécessite une prise en charge médicale, soit la pharmacologie suffit et tout le monde y trouve son compte.
Le client gagne une étape, la sécu économise une consultation et surtout il est soigné plus rapidement, il est soigné immédiatement.
L'objectif c'est surtout de désengorger les cabinets médicaux et les urgences parfois encombrées par des pathologies bénignes mais aussi de bien orienter des patients qui négligeraient leurs problèmes. Cédric Fabre de l'Union régionale des professionnels de santé en Bretagne.
Il y a plusieurs axes qui vont être étudiés, c'est est-ce que ça a permis de rattraper des situations où le patient avait banalisé des symptômes et que les arbres de triage ont permis de dépister une potentielle complication ultérieure. Et est-ce que ça a permis aussi de réduire le flux vers les urgences.
Et visiblement, ce but-là est déjà atteint, puisque sur 400 personnes déjà accueillies dans les 50 pharmacies bretonnes menant l'expérimentation, les trois quarts ont pu rentrer chez elles sans passer par la case médecin ou hôpital. Lorient, Charles Guyard, Europe 1.
Le football, Marseille a un match, un seul, d'une qualification en finale de Coupe d'Europe face au Feyenoord de Rotterdam.
Un match et deux buts puisque l'OM a été battu 3-2 à l'aller. Match important de la semaine et peut-être de l'année pour les Marseillais, Jean-François Pérez.
C'est une soirée rare dans une vie de joueur ou de supporter. Une demi-finale retour de Coupe d'Europe. La huitième seulement de l'histoire de ce club largement centenaire. Dauphin du championnat, au bord du grand plongeoir continental, l'OM peut tout gagner ou tout perdre en seulement quelques jours. Le capitaine Dimitri Payet.
On a fait 9 mois de grande qualité. Si on se loupe 3 semaines, ça aurait été 9 mois pour rien. C'est horrible, mais c'est aussi ça le football. On doit tout donner pour pas avoir de regrets.
Cet hiver, la nouvelle née, la plus modeste des 3 Coupes d'Europe, ne suscitait qu'une vague indifférence. Au fil des tours victorieux, elle est devenue un objectif majeur. Dans un entretien exclusif à Europe 1, le président Pablo Longoria assure que l'OM répondra présent malgré la défaite rageante à l'aller.
C'est jouable. On partage l'espoir de nos supporters, mais on comprend parfaitement la responsabilité de jouer en demi-finale. France a envie de rêver aussi avec le football, c'est important.
Pour ce match décisif qui ouvrira peut-être les portes de la finale à Tirana dans 3 semaines, l'OM bénéficiera d'un effectif quasiment au complet. On ne pourra pas chercher d'excuses, résume le buteur polonais Milik. Place maintenant au grand frisson.
Marseille, Feyenoord, Rotterdam ce soir à 21h, émission spéciale sur Europe 1 de 20h à 23h30 avec notamment un entretien exceptionnel dont vous avez entendu un extrait du président de l'OM, Pablo Longoria.
On espère que le spectacle sera à la hauteur du match entre le Real Madrid et Manchester City hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions.
Un match tout aussi incroyable qu'à l'aller. Le Real qualifié pour la finale dans le temps additionnel. Les Madrilènes étaient éliminés à la 90e minute, qualifiés à la 95e grâce à un but de Karim Benzema. Victoire 3-1 de Madrid qui s'offre donc une nouvelle finale. Ce sera contre Liverpool le 28 mai au Stade de France.
Merci Christophe Lamarre pour le journal. On passe au sport, aux courses, au sport. C'est du sport aussi, les courses, les pronostics du Quintet en tout cas. Avec Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, c'est sur l'hippodrome de Lyon-Paris que va se courir ce quintet. Un handicap qui réunira un lot homogène de 15 partants et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 6, Baratin, ayant déclaré forfait. Un entraîneur attaque en force dans ce quintet. Le local, Jean-Pierre Gauvin, qui n'aura pas moins de 4 représentants. Les numéros 5, Maki Maki, 13, Go with the Wind, 11, Balmoral et 8, Marquant, qui, jugés sur ce qu'ils ont réalisé de mieux, ont tous une réelle chance de disputer les premières places, d'autant plus qu'ils connaissent cette piste de Lyon-Paris sur le bout de leurs sabots. Face à cette coalition, je vous propose Nuance, le numéro 7, certes d'une santé fragile, mais elle semble être actuellement en plein boom, comme le prouve sa dernière victoire obtenue sans émotion le 1er avril à Chantilly, avec Maïssa Kimiki, le numéro 15, dont j'ai entendu le plus grand bien le matin sur les pistes d'entraînement et pour lequel son entraîneur n'a pas hésité à faire appel au crack jockey Stéphane Pasquier. Enfin, les numéros 9, Théorème, et 3, Circé, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 13, 11, 8, 7, 15, 9 et 3.
J'espère que vous avez pris bonne note, sinon les pronostics sont déjà à retrouver sur le site europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Ici,
Alger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de
la... C'est le premier jour de l'Euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1.
La machine a remonté le temps d'Europe 1, le jour où, il y a 30 ans, la catastrophe de Furiani en Corse, le 5 mai 1992, une tribune s'effondre dans le stade de Furiani. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Une partie de la tribune s'effondre donc juste avant un match de Coupe de France entre Bastia et Marseille.
Oui, les spectateurs sont dans le stade comble. Une tribune supplémentaire métallique a été installée spécialement dans laquelle 10 000 personnes battent des pieds à l'unisson. La tribune se met à vibrer, puis s'effondre.
La tribune supplémentaire s'effondre comme un château de cartes, entraînant dans un affreux plongeon des centaines de spectateurs.
Il y a des cris, un brouhaha, des centaines de personnes sont écrasées par la structure métallique. La catastrophe fera 19 morts et près de 2400 blessés. Quelques minutes plus tard, un témoin raconte sur Europe 1.
La tribune a lâché d'un coup. Hein.
Vous avez ressenti quelque chose avant ?
Non, pas du tout. Hein. Ça a lâché d'un coup, net. Hein.
Vous êtes retrouvé, vous êtes tombé de très haut ?
20 mètres plus bas. 20 mètres plus bas, j'ai attrapé mon gamin et puis bon, ma femme a été blessée.
Pression trop forte, défaut du système, installation défectueuse, l'enquête doit alors le déterminer.
Et pour l'heure, les secours arrivent et tous les hôpitaux de la région commencent à être saturés.
Oui, partout, à même le sol, des brancards, des perfusions, des traces de sang. Le lendemain matin, devant les magasins corses, apparaît la pancarte « fermée pour cause de décès ». C'est toute l'île qui porte le deuil, raconte le journaliste Frédéric Elbert sur place pour Europe 1.
À Bastia, par exemple, il n'est pas une boutique ou un café où l'on ne connaisse une victime de la tragédie. Et la ville qui chérissait tant son club de football souffre aujourd'hui à l'unisson.
La colère est aussi là. Christian Roda, journaliste d'Europe 1, fait partie des blessés.
Je peux vous dire qu'on avait tous peur. L'ambiance était chaude dans ce stade de Furiani. Lorsque les joueurs marseillais sont arrivés, lorsque les dirigeants sont arrivés, c'était tendu, les gens tapaient des pieds. Ça ne ressemblait plus à du football.
Les organisateurs avaient vu que cette tribune n'était pas stable, raconte alors ce témoin.
Après, ils ont commencé à nous dire ne tapez pas, ils ont senti quelque chose. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas qu'on tape sous les sièges, parce que ça faisait reculer les tribunes. C'est qu'ils voyaient quelque chose qui n'allait pas.
La page la plus noire du football français marque aussi les joueurs, dit le lendemain Jean-Pierre Papin de l'Olympique de Marseille.
Les joueurs de Bastia ont aidé les blessés, les joueurs de l'OM ont aidé les blessés, tout le monde a essayé de tenir les perfusions, à donner le maximum. Je crois qu'on a vu l'horreur hier, je crois qu'il faut vite l'oublier, mais ça sera difficile.
Et au moment du procès, 3 ans plus tard, en 1995, tous les prévenus écopent d'une peine de prison avec sursis ou d'une amende, sauf un qui écope d'une peine de prison ferme de 2 mois, c'était le constructeur de la tribune.
Merci Laure. Ne manquez pas à 6h10 l'interview de Jacques Vendroux. Lui aussi était là ce 5 mai 1992 à Furiani, blessé dans la catastrophe. Il sera en direct avec nous tout à l'heure. Dans un instant, l'interview de 5h45, on part à la montagne.
Fanny Marceau. Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à toutes et à tous. Le temps est un peu changeant ces derniers jours. Mais une chose est sûre, qui dit printemps dit fin de saison pour le ski. Et contrairement à l'année dernière où on faisait grise mine, eh bien 2022 est une année de sourires sur les pistes. Bonjour Vincent Lalanne.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Val Thorens, la plus haute station d'Europe, 2300 mètres d'altitude. Fermeture des pistes prévue dimanche. Est-ce que vous avez le sourire ce matin? Quel est le bilan de ces 5 mois et demi de ski?
Alors, on a doublement le sourire, c'est que on a de la neige qui est en train de tomber, donc on a un joli manteau neigeux tout blanc, et comme on ferme ce week-end, on va fermer sous le soleil, donc samedi 7 et dimanche 8, on va avoir du très beau temps pour terminer la saison, qui a été une saison extraordinaire.
Une saison en beauté, donc du coup, il y a eu plus de monde, j'imagine, que l'année dernière, où c'était une année de vide et de silence.
Ah oui, tout à fait. Nous, on se compare pas d'ailleurs du coup aux 2 années précédentes parce qu'on a eu une demi-année et une année blanche. Donc, on se compare plutôt sur la saison il y a 3 ans, la saison 2018-2019.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne?
Eh ben, on a fait une saison très très bonne, très compliquée au départ, hein, parce que c'est vrai que les gens souvent ont la mémoire courte, mais on a démarré, nous, on a ouvert en novembre, dans une très forte incertitude encore à l'époque, puisqu'on était, je vous le rappelle, sous des périodes de tests intenses sur les tests Covid, et puis qui ont été suivis tout de suite derrière par une énorme campagne de vaccination. Donc, on a suivi toutes ces recommandations sanitaires qui changeaient à peu près tous les jours. Mais malgré ça, il y avait une très très forte appétence de nos clients, donc les clients sont venus en masse dès le début. début, dès le week-end d'ouverture, hein, dès le week-end du 20 novembre. On a eu énormément de monde et ça ne s'est pas démenti jusqu'à Noël. On a ensuite eu une petite période de creux parce qu'on a toujours beaucoup de clients étrangers à Val Thorens, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de n'avoir que des Français et on pensait qu'on aurait plus de Français que ça. On a eu finalement les mêmes proportions, donc globalement, on a toujours en permanence 70% d'étrangers. Et donc, on a eu un petit trou d'air naturellement parce qu'on avait beaucoup de clients anglais qui n'ont pas pu venir pendant toute la période, vous savez, de bataille politique du Brexit entre Johnson et Macron, qui fait que, ben voilà, on a eu quand même presque 3-4 semaines pratiquement d'incertitude et avec surtout des clients qui ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés, qui ne pouvaient pas forcément venir, donc on a perdu pas mal de groupes. Mais en fait, ensuite, ça a redémarré énormément avec d'autres pays européens. Qui ont remplacé quelque part un petit peu les Anglais, puis qui ont compensé, puis surtout qui sont venus en très forte nationalité, donc par exemple les Hollandais, on a eu énormément de gens des Pays-Bas, on a eu beaucoup de Belges, beaucoup de personnes de Danois également, et puis à peu près toute l'Europe du Nord qui est venue de manière très importante, plus bien sûr les Français, une grosse appétence des Français à revenir au ski, donc ce qui fait qu'on a eu absolument aucune période de creux jusqu'à maintenant, et on finit aujourd'hui de manière très importante avec beaucoup de Hollandais. On a une semaine qu'on appelle la Dutch Week, donc on a c'est la semaine de la reine en fait, et on a à peu près un peu plus de 6000 Hollandais sur la station jusqu'à la fin de la semaine.
La vague Omicron n'a pas posé problème, n'a pas ralenti la volonté des gens de venir chez vous?
Non, absolument pas. À partir du moment où les gens étaient vaccinés, ont suivi les consignes sanitaires et on a nous aussi respecté au fur et à mesure toutes les consignes qui étaient données. Et en fait, ça s'est plutôt très bien passé au final. Et les gens ont quand même, on a réalisé une saison qui est quand même extraordinaire, hein, parce que par rapport à il y a 3 ans, on est en belle progression quand même, ce qui est surprenant parce qu'on était déjà sur des périodes records à l'époque sur Val Thorens.
2022, année de la renaissance pour toutes les stations de ski, hein, de toute façon quasiment cette année. Est-ce que ça suffit à effacer l'ardoise de 2021? Finalement, c'est comme si de rien n'était alors?
Non, parce qu'une ardoise, ça reste une ardoise, donc à un moment donné, il faut payer la note. Mais par contre, ça nous permet de voir de manière très optimiste. On aura eu également un trou d'air, ben forcément, dans une certaine partie d'investissement, mais on a quand même continué à investir dans la station parce qu'on est dans un milieu extrêmement concurrentiel à l'échelle internationale. Donc on doit garder notre rang et on doit rester dans les meilleures stations du monde et on doit garder notre rang de belles destinations internationales. Donc on doit continuer à investir.
Des investissements à venir dans quel secteur, dans quel domaine exactement?
Alors là, on va ouvrir un splendide centre sportif qui va ouvrir en décembre, qu'on a commencé donc à construire pendant la période Covid. Et ça nous a permis de travailler dans les bâtiments. Et il sera terminé en décembre. C'est un investissement d'à peu près 40 millions d'euros. Donc c'est important. On a refait aussi une nouvelle télécabine depuis la maison avec notre petite sœur Dorel sur le côté Maurienne. Voilà, on continue à faire des investissements sur la station de manière à l'embellir encore et toujours.
On entre dans une nouvelle période, je le disais, le printemps, nouvelle période pour les stations. On y pense moins, mais même sans ski, il y a quand même des activités très sympas à la montagne pendant les beaux jours.
Alors, il y a plein d'activités sympas, mais il faut être très clair, on est la plus haute station d'Europe et les gens viennent sur Val Thorens avant tout pour skier. Mais ils viennent aussi, bien évidemment, pour l'après-ski. Voilà, les gens viennent aussi pour faire la fête, pour profiter de la nature, pour profiter des paysages qui sont juste magiques au printemps, parce que vous avez des levées de soleil ou des couchers de soleil qui sont magiques à voir. Donc effectivement, il y a aussi beaucoup d'activités comme la luge, comme la tyrolienne, comme des choses comme ça à faire. Mais les gens viennent vraiment pour faire les dernières descentes de ski. C'est d'ailleurs pour ça que notre événement de fin de saison du week-end prochain s'appelle la Grande Dernière.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a au programme de la Grande Dernière?
Alors, une très belle course depuis le sommet du Funitel de Péclé, donc après 3000 mètres avec une arrivée dans la station. C'est ouvert à toutes les catégories. Il y a des pros, il y a des amateurs, il y a et il y aura beaucoup de choses à gagner, en particulier au tirage au sort, plus de 40 000 euros de lot. Donc, ça va être une belle fête de fin de saison. On termine dans un water slide, donc c'est une piscine ouverte où on peut skier dedans et il faut traverser la piscine.
Ça va être sympa ça. Et après, vous allez souffler un petit peu quand même pour les équipes. Ça va être le moment de lâcher un peu la prise.
Alors après, il faudra qu'on range un petit peu. Donc la semaine suivante, à l'issue de la semaine suivante, on sera effectivement en vacances. Après, effectivement, c'est 5 mois et demi de saison.
Fantastique. Bien mérité en tout cas. Merci beaucoup Vincent Lalanne d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, directeur de la station de ski de Val Thorens. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de saison. J'ai l'impression que ça va être sympa. Et de bonnes vacances. Bien mérité. Fantastique.
Merci
à vous. Bonne journée. Au revoir.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
5h49, vous êtes bien sur Europe 1 avec Alban Le Prince pour le journal permanent.
Le PS face à ses dissidents après l'annonce d'un accord avec les Insoumis pour les législatives. Il doit encore être soumis au vote du Conseil national du parti ce soir, mais certains ténors s'y opposent, comme l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui claque la porte. Pas de changement au gouvernement avant le 13 mai, date à laquelle s'achève officiellement le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Annonce de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement hier à l'issue du Conseil des ministres. 19 morts, plus de 2000 blessés. Ce jeudi marque le 30e anniversaire du drame de Furiani. Si en temps normal, aucun match ne se joue un 5 mai en France, l'OM reçoit ce soir au Vélodrome Feyenoord pour les demi-finales retour de la Ligue Europa Conférence. Rencontre à suivre en direct et en intégralité, évidemment, sur Europe 1 à partir de 20h.
Europe 1. La culture gastronomique du jeudi. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Fanny.
Et aujourd'hui, alors que va s'ouvrir ce week-end à Dijon la Cité internationale de la gastronomie et du vin, vous nous parlez d'une spécificité française qui sera très présente dans ce nouveau lieu, les accords mets et vins.
Oui, ben vous le savez, depuis 2010, le repas gastronomie des Français est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre pays, manger ne consiste pas, vous le savez, uniquement à ingérer des aliments pour se nourrir, mais cela répond à des rites, des codes, des pratiques, des habitudes, comme par exemple le séquençage du repas, hein, entrée, plat, fromage, dessert, le dressage d'une jolie table, le temps passé autour de la table, on reste quand même les champions du monde, et tant mieux, la convivialité et la place du vin qui chez nous est prépondérante. Alors il faut dire que dans aucun autre pays du monde, l'accord entre les mets et les vins servis n'a été autant étudié et n'est autant important. Il n'y a qu'à voir le nombre de restaurants gastronomiques qui proposent désormais des formules accord, mets et vins.
C'est vrai. À quand remonte cette pratique d'accorder les plats et les vins ?
Eh bien, elle remonte en fait au 19e siècle. C'est d'abord une habitude de cour, évidemment, avant de s'imposer ensuite dans les restaurants. Et c'est en fait l'introduction du service à la russe qui va permettre ces accords. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir qu'auparavant, le service à la française prévoyait que tous les plats étaient servis ensemble sur la table, ce qui évidemment rend les accords assez impossibles. Alors, le service à la russe impose des séquences, les plats viennent les uns après les autres. À cette époque-là, la cuisine se raffine, on voit apparaître les premières vraies consignes en matière de service du vin. Et durant deux siècles, l'art de ce mariage va se perfectionner, de nouvelles voies sont explorées. Les premiers livres vraiment dédiés au sujet des accords mets vins sont quant à eux beaucoup plus contemporains, les années 70 et 80, avec ce qu'on pourrait appeler l'avènement de la sommellerie moderne.
Les règles ont donc bien changé pendant toutes ces décennies.
Absolument, car tout comme la cuisine et nos goûts d'ailleurs, on a évolué. On a d'abord cassé les codes, alors vous savez, le sauterne et le foie gras, le vin rouge et le fromage ou le champagne au dessert n'ont plus vraiment la cote aujourd'hui. Dans les années 80, certains chefs et certains sommeliers, en grand chef je pense par exemple à Alain Sandrin, qui était le chef du Lucas Carton à Paris, ont élevé les accords mets et vins au rang d'art en imposant et en osant des associations nouvelles et parfois un peu iconoclastes pour l'époque, le homard et le vin rouge, les fromages et le vin blanc. Et les sommeliers définissent de nouvelles règles comme l'accord de couleur, par exemple, plat rouge, plat blanc, vin blanc.
Bon, comment réussir ces accords ?
Alors, on peut dire qu'il existe deux grandes familles d'accords. Ce qu'on peut appeler d'abord l'accord d'opposition et l'accord de complémentarité. Je m'explique. L'accord d'opposition, c'est le vin qui vient percuter le plat pour lui apporter des saveurs nouvelles, un équilibre différent. Par exemple, prenez un vin blanc de Sancerre et le fromage de chèvre. L'acidité du vin casse le gras du fromage et nettoie en quelque sorte le palais. L'accord de complémentarité, c'est le vin et le plat qui partagent des saveurs communes et qui viennent les renforcer. Exemple, l'huître et le muscadet. Ils possèdent tous deux un petit côté iodé qui vient se rencontrer et fait déferler l'iode dans votre bouche. Alors si ce sujet vous intéresse, il existe évidemment de nombreux livres qui en parlent. Hein. Et sur l'histoire des accords mets vins, je vous recommande celui de Jean-Robert Pitt, géographe de formation, membre de l'Académie du vin et grand spécialiste de la question. Les accords mets et vins, un art français aux éditions du CNRS. Vous saurez tout et vous réussirez de manière infaillible vos grands accords à table.
Les bons conseils d'Olivier Pouls. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Il est 5h58. Dans un instant, la météo d'Anissa Haddadi, le journal de Romain Oquet et une minute de silence dans les gradins de l'OM ce soir. L'Olympique de Marseille qui va rendre hommage aux victimes du drame de Furiani en Corse. C'était il y a 30 ans tout juste. 19 morts, 2357 blessés. Parmi eux, Jacques Vendroux, aujourd'hui journaliste au service des sports d'Europe 1. Il nous racontera son 5 mai 1992 à 6h10. Et juste après, la partition d'Omblin avec un chanteur dont la carrière a décollé grâce à Europe 1.
Love me, please love me, je suis fou.
Un chanteur français qui voulait chanter en anglais, la partition de Michel Polnareff, c'est dans 20 minutes. Miss Haddadi, dites-nous, c'est encore une journée agitée à l'Est.
Oui, de l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord. Et même jusqu'à l'arrière-pays provençal, on a un ciel encore très nuageux aujourd'hui. C'est là que la journée est la plus agitée. Actuellement, il pleut entre Nîmes et Morteau. Donc vous voyez que c'est assez large. Hein. Il pleut du sud jusqu'au nord-est du pays, en passant par Lyon, Grenoble, Valence, Montélimar. Si vous êtes dans ce secteur, n'oubliez pas le parapluie en partant. On a des petites averses également dans le nord-est, hein, entre la Meurthe et Moselle et jusqu'au territoire de Belfort. Dans la journée, à l'est, les averses deviennent orageuses. C'est en Corse, hein, vraiment, que le tonnerre va se faire entendre. La pluie est enfin de retour sur l'île de Beauté. Sur le golfe du Lion, là, on a un temps qui est quand même plus calme. C'est gris sur la Provence, c'est agréable sur le Languedoc-Roussillon, avec tout de même la tramontane qui souffle à 70 km/h. Vous le voyez, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Ce matin, le ciel est couvert. Sur la Bretagne, la Normandie, le centre Val-de-Loire, la région parisienne. Et puis au fil des heures, le soleil va se montrer un petit peu plus et ça sera très agréable entre le Nord et le Pays Basque. Comme hier, 4 à 15 degrés ce matin, cet après-midi, 15 à Saint-Etienne, 17 à Aurillac, 20 degrés pour Paris et Royan et 23 à Nîmes.
Merci Anissa. Vous écoutez Europe 1, très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 5 mai. Et il est 6 heures. Le Parti Socialiste sur un fil. L'accord trouvé avec la France Insoumise doit être voté ce soir au congrès du PS. Et tout n'est pas réglé. En interne, les réfractaires préparent la riposte. Une alliance qui ne séduit pas non plus tous les militants. Nous serons à Lille dans un instant. 4,8% d'inflation ce mois-ci. Un chiffre qui nous oblige tous à partir à la chasse aux économies. Bons de réduction, promotion. Vous êtes nombreux à opter pour le système D. Reportage à suivre. 60 ans après sa mort, elle reste une icône. Marilyn Monroe, star de Netflix. Les circonstances de sa disparition aussi fascinent. Une enquête racontée dans un documentaire qui cartonne en ce moment sur la plateforme.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Le journal de 6 heures présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La rose du Parti Socialiste n'a jamais été aussi piquante. La dissidence s'organise en interne à quelques heures du Conseil National du Parti. 300 membres réunis ce soir pour valider ou non l'accord trouvé hier avec la France Insoumise.
Et tout n'est pas réglé. Les négociateurs socialistes ont obtenu 70 circonscriptions et laissent donc des territoires entiers sans le moindre candidat PS.
Oui, à cela s'ajoutent les concessions sur le programme. Au chapitre Europe, la désobéissance à certains traités a été validée par les socialistes. Enfin, pas tous. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a claqué la porte. Stéphane Le Foll lui propose même de mener la campagne des frondeurs. Et les militants, que pensent-ils de cette alliance PS-Insoumis ? Le reportage de Maximilien Carlier, correspondant à Lille, bastion socialiste.
Devant la Fédération du Nord du PS, Monique, elle a toujours mis un bulletin socialiste aux élections, mais aujourd'hui, elle hésite car cette union de la gauche, elle n'en veut pas.
Je ne voterai pas socialiste s'il y a un accord. Parce que je ne veux pas sortir de l'OTAN, je ne veux pas sortir du nucléaire, je suis farouchement pro-européenne.
Pour toutes ces raisons, je suis contre, affirme-t-elle. À quelques mètres de là, Annie, militante PS depuis 1974, le Rassemblement des Gauches, en 2022, elle n'y croit pas.
Moi, je l'ai vécu en 81, donc oui, mais pas en ce moment. Pas en ce moment et pas avec Mélenchon. J'ai pas pu oublier sa façon de traiter les policiers quand il y a eu dans ses bureaux une perquisition. C'est quelqu'un d'incontrôlable.
Le problème, c'est qu'on est devenu presque rien, m'a-t-elle confié, et que cette union de la gauche, malgré tout, c'est peut-être le seul moyen d'exister. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
L'Union de la gauche est enterrée aussi par la maire socialiste de Lille, Martine Aubry. Tout l'inverse de la nouvelle génération d'élus à Clermont-Ferrand, Nancy, Nantes ou Rennes. Les élus PS appellent à valider l'accord avec la France insoumise.
À 6h03 sur Europe 1. Et vous, quelles sont vos astuces pour faire des économies à la caisse de votre supermarché?
Alors, il y a les bons de réduction, les achats en lot. Bref, chacun son arme contre l'inflation. 4,8% ce mois-ci, une hausse des prix portée par l'alimentation, l'habillement ou les produits d'hygiène. Une facture douloureuse qui nous oblige tous à bouleverser nos habitudes. Peut-être que vous misez par exemple sur les French Days, une opération de promotion qui a démarré hier dans plusieurs enseignes, y compris à Strasbourg. Le reportage de notre correspondante Mélina Fachin.
Dans ce grand centre commercial en plein cœur de Strasbourg, Mohamed est venu faire du shopping. Il attendait impatiemment les French Days.
Et des meilleures offres. Là, je vais m'acheter des Bermudas et tout ça pour l'été. Là, c'est des moments à pas rater, quoi. Je suis à l'affût, moi.
Adriana, elle, a déjà fait une bonne affaire.
J'ai pris des petits hauts que vendait le troisième à 1 euro.
Pour Jawad, les économies, c'est au quotidien qu'il essaye de les faire, notamment pour ses courses alimentaires.
On prépare déjà notre liste et par rapport aux catalogues qui sont en ligne et du coup, on fait la comparaison par rapport à nos articles. Quitte à faire des courses un peu séparées, mais pour économiser, c'est beaucoup plus avantageux.
Rosa et Ulrich sont plus traditionnels. Ils épluchent les catalogues de leur supermarché en quête de coupons de réduction.
C'est organisé, c'est réfléchi. C'est une vraie stratégie, quoi.
Il n'y a pas de petites économies.
Et là, vous en avez fait des économies aujourd'hui, par
oui,
exemple
sur le shampoing, sur le gel douche, dentifrice, de l'eau minérale, 31,17€ d'économie. Grâce à la remise, la promotion, etc.
Des économies encore plus nécessaires en ce moment à cause de l'inflation. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
6h04, c'est la dernière fois qu'ils témoigneront au procès du 13 novembre 2015. Pendant 10 jours, les rescapés et les proches des victimes vont prendre la parole à la barre.
90 personnes, 90 nouvelles histoires qui pourront préciser le récit de ces attentats.
Et hier, c'est un pompier de Paris qui s'est avancé à la barre. C'est par hasard qu'il se trouvait ce soir-là près du Carillon et du Petit Cambodge à Paris. Il portait secours à une dame dans un supermarché quand, à quelques mètres, les terroristes ouvrent le feu. Pour ce pompier victime, la soirée bascule. Gladys Laffitte.
Une balle dans le pare-brise, une dans l'aile et des éclats sur la porte latérale du camion rouge. D'abord, Christophe ne réalise pas ce que ça veut dire. Il ordonne à ses deux jeunes collègues de 20 ans d'aider les blessés. « Je compte tous les gens au sol, je les considère comme décédés, je fais un tri », explique-t-il à la cour, les yeux rivés sur son texte comme s'il pouvait l'empêcher de craquer. Il réalise qu'il a été visé une fois rentré à la caserne. « C'est difficile pour un pompier d'être victime, ce double statut est insupportable », avoue Christophe la gorge serrée. Il inspire, prend son temps, raconte les années d'après, les excès, la colère, le traumatisme qui ne passe pas. « Je me suis caché derrière ma carrière pro, les stages, les examens, je me donnais beaucoup d'objectifs ». Et puis il réalise que cette profession dont il rêvait gamin, il ne peut plus l'exercer. L'ouverture du procès m'a plongé dans une impasse, je n'en peux plus d'être sous pression, ils m'ont eu à l'usure, avoue-t-il comme vaincu, mais pas tout à fait, car il a voulu faire une annonce à la cour, qu'on se connaisse ou non, que vous soyez dans le box des accusés ou non, ma conjointe est enceinte, la vie continue.
Le récit de Gladys Laffitte pour Europe 1.
Après le fracas des bombes, le silence devrait s'installer aujourd'hui autour de la Syrie de Mariupol en Ukraine.
Moscou annonce un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui, mais dément les combats violents annoncés par Kiev. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue ce soir à New York. Cela fait partie des légendes qui nous fascinent autant qu'elles nous intriguent. 60 ans après sa disparition, Marilyn Monroe est la star d'un documentaire Netflix.
Il a été mis en ligne depuis une semaine et c'est déjà l'un des programmes les plus regardés de la plateforme.
Et tout est dans le titre, le mystère Marilyn Monroe, conversations inédites, ça donne envie, car c'est bien ça l'intrigue. Que s'est-il passé cette nuit d'août 1960? Celle où la jeune femme de 36 ans a trouvé la mort. Marilyn Monroe reste en tout cas une icône éternelle racontée par Marie Jiquel.
I wanna be loved by you.
Chevelure jaune, bouche rouge et un point sur la joue, il n'en faut pas plus pour ressusciter le sex-symbole Marilyn Monroe.
C'est la Vénus du XXe siècle et elle n'a pas rencontré Botticelli. C'est elle qui s'est fait cette image.
Olivier Lorquin, le président du musée Mayol à Paris, a organisé plusieurs expositions sur l'icône, des événements qui attiraient toutes les générations.
Quand elle était en forme et qu'elle fixait l'objectif, on perdait son identité. C'est-à-dire que c'était comme un ange qui était tombé du ciel. Et c'est ça toute cette puissance, c'est une fée quoi.
Marilyn inspire aussi les stars de notre époque. Kim Kardashian portait récemment l'une de ses robes, moulante et scintillante, la robe la plus chère au monde. Mais bien moins glamour, le mythe est aussi alimenté par la mort prématurée de l'actrice.
Elle est morte à l'âge de 36 ans, c'est une étoile foudroyée. Marlene aurait vécu plus longtemps, je ne sais pas si le mythe serait aussi fort aujourd'hui.
Une overdose aux circonstances floues, au cœur du nouveau documentaire Netflix, suicide ou meurtre orchestré par les Kennedy. 60 ans de mystère qui entretiennent la légende.
Happy birthday, Mr. President, en mai 1962, avec Marilyn Monroe divine dans une robe scintillante. Mais justement, c'est cette même robe qu'a portée Kim Kardashian, et oui, au Met Gala de New York lundi. Alors pour l'occasion, la star américaine avait teint ses cheveux en blond patine et perdu 7 kilos. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir le sens du sacrifice, même si on peut le dire. Vous irez voir avec les images, le résultat n'est pas exactement
c'est
pareil.
C'est pas tout à fait la même,
voilà,
effectivement.
Mais l'effort est à saluer.
C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour le journal de 6h. Il est 6h08 déjà et c'est l'heure du journal des sports. Journal des sports avec Johan Tritz et avec encore une fois le Real Madrid qui s'en sort par miracle.
Et une belle ambiance à la fin d'un match fantastique, mené 1-0 jusqu'à la 90e minute par Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont renversé la situation, deux buts coup sur coup de Rodrigo, puis un autre en prolongation de l'inévitable Karim Benzema ont suffi au bonheur de la Maison Blanche.
Dans la prolongation, on savait qu'on était mieux que physiquement et qu'on avait le momentum pour gagner, quoi. Tout le monde a donné tout de soi-même et on savait que si on jouait le match ici à domicile avec juste 1-0, on pouvait gagner ce match et c'est ça, quoi.
Thibaut Courtois, le gardien du Real. La finale se jouera donc entre le Real Madrid et Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France.
Une finale européenne dont rêve aussi Marseille.
Oui, l'OM qui joue ce soir sa demi-finale retour de Ligue Conférence, la troisième Coupe d'Europe. Battue 3-2 à l'aller par Feyenoord, Dimitri Payet et ses partenaires espèrent pouvoir faire la différence à domicile.
On a la chance de pouvoir avoir ce match retour à la maison. Il n'y a plus de filet, on va devoir marquer les deux si possible pour pouvoir se qualifier directement ou passer par les prolongations. Mais en tout cas, voilà, on sait que la marche est haute, mais on va se donner les moyens de le faire.
Une finale potentielle qui plaît au président du club Pablo Longoria qui a donné une interview exclusive à Europe 1 au micro de Jean-François Pérez et Jacques Vendroux.
Moi, j'espère une finale, mais je rêve de gagner.
Surtout gagner.
Les finales, je ne joue pas. Les finales, c'est gagner.
Et pour ça, ça serait mérité, pour toute la saison que vous avez tous réussi ici, que l'OM gagne un trophée.
Le rêve toujours qu'on a, c'est de gagner. Et je crois qu'avec la passion, on a un coup à jouer.
L'interview à retrouver en intégralité à 20h. Émission spéciale sur Europe 1 ce soir pour cette demi-finale. Et juste avant le coup d'envoi, il sera respecté une minute de silence pour rendre hommage aux victimes du drame de Furiani en Corse. Une tribune s'était effondrée faisant 19 morts il y a 30 ans aujourd'hui.
Et Jacques Vendroux faisait partie d'ailleurs des victimes, hein, des 2357 blessés de ce drame. Il sera notre invité dans un petit instant. Du basket maintenant et pas de demi-finale en revanche pour Monaco.
Oui, la Roca Team passait tout près de l'exploit face à l'Olympiakos en quart de finale d'Euroleague. Une défaite 94-88 lors du match 5 décisif. Après avoir mené tout le match, les hommes du Rocher ont craqué dans le final et ne verront pas le Final Four.
Merci beaucoup Johan Tritz pour le Journal des Sports. Restez avec nous dans un instant, le souvenir de Furiani il y a 30 ans. 19 personnes décédées, on l'a dit, lorsque la tribune du stade Armand Césari s'est effondrée. Plus de 2000 blessés, l'un d'entre eux, le journaliste d'Europe 1 Jacques Vendroux, est notre invité.
Fanny Marceau. Votre matinale info sur Europe 1.
Bon début de matinée à tous sur Europe 1. Il est 6h12. Il est des catastrophes que le temps recouvre de poussière. Mais pas celle-là. Furiani est encore furieusement, oserais-je dire, dans les mémoires. Il y a 30 ans tout juste, le 5 mai 1992, les cris de joie sont devenus des cris d'horreur. La tribune nord du stade Armand Césari s'est effondrée avec son public. 19 morts, 2357 blessés. Bonjour Jacques Vendroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, journaliste au service des sports d'Europe 1. Vous étiez là, il y a 30 ans, sur ce château de cartes. Quel souvenir gardez-vous de cet accident ?
Je garde un souvenir épouvantable. Je garde un souvenir dramatique. Je vis avec cette histoire tous les jours. J'y pense tous les jours. Quand vous voyez un camion de pompiers qui vous double, ou une ambulance, ou un paraplégique qui traverse la rue, eh bien, ça vous rappelle évidemment Furiani. Mais moi, très honnêtement, je suis un cas très particulier parce que je m'en suis sorti. Je l'ai vécu, je l'ai eu dans ma chair, j'en ai souffert encore et j'en souffre encore beaucoup. Mais je ne suis pas un martyr de Furiani, je ne suis pas un martyr de la société. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de continuer ce métier, notamment ici à Europe 1. J'ai continué à commenter des matchs de football. J'ai eu la chance aussi de jouer encore de temps en temps avec le Variété Club de France dans les buts, ce qui était quand même quelque chose d'important. Je m'en suis remis, mais je m'en suis remis physiquement. Mais je m'en remettrai jamais psychologiquement. C'est impossible. J'ai entendu des messagers, des gens qui sont plus forts que les autres, en disant « mais moi j'oublie, mais moi je peux passer à autre chose ». C'est impossible. 19 morts, plus de 2500 blessés, des familles détruites par la mort, détruites par leur enfant qui est devenu paraplégique, par un parent qui est devenu paraplégique, etc. On ne peut pas oublier. Et je suis très heureux entre guillemets, hein, très heureux entre guillemets, qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille rende hommage à, avant son match contre Feyenoord avec une minute de silence, et les joueurs de l'OM vont jouer avec un brassard. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire pour l'avenir.
On va y revenir tout à l'heure sur ce match de ce soir qui se joue d'ailleurs un 5 mai. Je voudrais qu'on puisse presque revivre, je mets beaucoup de guillemets à ce que je dis, revivre ce jour-là avec beaucoup d'émotion et de respect. Écoutez. Ce qu'on entend là, c'est le chaos. C'est un document amateur qui a été tourné au moment où s'effondre cette tribune. L'évacuation des blessés a été compliquée. Les services hospitaliers corses ont vite été débordés. Bernard Tapie lui-même, qui était président de l'OM à l'époque, a ramené des blessés graves sur le continent à bord de son jet privé. J'imagine que dans les rédactions aussi, ça a dû être le choc. Vous étiez, vous, sur le point de faire un direct. Donc on vous entendait à ce moment-là.
Non mais l'histoire, elle est malheureusement simple. Il est 20h25. Le technicien du studio à Radio France me dit « Jacques, tu fais ce que vous allez comprendre, tu fais l'ouverture du 20h30. » Voilà, sur le match Bastia-OM, qui, je le rappelle, est une demi-finale de Coupe de France de football. Donc un match important, je veux dire, sur le plan français et sur le plan corse également. Sur le plan français, tout simplement. Et donc, si vous voulez, après, plus rien. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Je me suis simplement retrouvé à l'hôpital de Bastia. Après, j'ai été rapatrié d'une manière sanitaire sur Paris à la Salpêtrière. Je ne me souviens de rien, sauf de certains flashs. Je suis persuadé, par exemple, qu'un motard qui a eu un accident est venu me donner à boire à l'hôpital. Et tout ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un rêve. Je ne sais pas si j'ai fait les questions et les réponses, etc. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut penser, mais très très fort, aujourd'hui comme tout le temps, je veux dire, à ces 19 morts, aux familles, je le répète, ces récurrents, qui ont été détruites par ce drame, qui ont été, je veux dire, marquées, je veux dire, à vie, il n'y a pas d'autre mot. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien d'y penser, c'est bien d'en parler sur Europe, c'est bien d'en parler partout. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, ce que peut être une souffrance d'un accident. Et plus le temps passe, plus vous n'oubliez pas, vous n'arrivez pas à oublier. Il y en a qui se disent, je l'ai dit tout à l'heure, plus fort que les autres. Je veux dire, moi j'oublie, moi je ne peux pas oublier.
Et le procès n'a soulagé personne finalement.
Le procès n'a soulagé personne parce qu'en fait, on ne connaît pas la vérité. La seule chose qu'on connaît, qui est grave, c'est qu'il y avait une tribune de 1500 personnes qui s'appelait la tribune Claude Papy, qui était un grand joueur de l'époque du Sporting Club de Bastia. Cette tribune a été détruite, je veux dire, 10 jours avant le match du 5 mai pour construire une tribune, je veux dire, provisoire de 9000 personnes. C'est la seule chose qu'on sait. Et cette tribune s'est effondrée.
C'est un échafaudage.
C'est un échafaudage. Et je vais vous dire très honnêtement, moi je suis monté sur cette tribune. Parce que tous les gens, moi je ne pouvais pas être plus haut. Je ne pouvais pas être plus haut et j'en parle avec passion parce que les 7 personnes qui étaient à ma droite et les 7 personnes qui étaient à ma gauche, ils sont tous partis, ils sont tous mortes. Donc j'ai cette question, puisque vous me demandez de témoigner ce matin sur Europe, j'ai cette question qui est insoluble pour moi. C'est-à-dire, pourquoi moi?
Pourquoi vous vous en êtes sorti?
Pourquoi je m'en suis sorti? J'en sais rien. En me réveillant ce matin, je me dis, mais j'ai quand même beaucoup de chance. Je veux dire, je vais prendre ma voiture, je vais aller à Europe, je vais témoigner. Et je veux témoigner parce que je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on ne l'oublie pas. C'est le plus important.
Dans le Figaro ce matin, Gérard Poncier, qui est président de la section Provence de l'Union des journalistes de sport en France, estime, je cite, que Furiani symbolise le début du foot fric et de ses dérives inacceptables. Vous partagez cet avis ?
Bien sûr. C'est-à-dire que le Sporting Club de Bastia s'est aperçu qu'il y avait une demi-finale de Coupe de France hyper médiatique entre Bastia et la grande équipe de l'Olympique de Marseille. C'était la grande équipe, hein, attention. Et donc le stade était plein et il s'apercevait qu'avec les tribunes en l'état, ils n'allaient pas faire une belle recette. Donc ils ont tout modifié pour remplir le stade. Ils ont rempli le stade, ils ont gagné beaucoup d'argent et à la sortie, ça a été un drame absolu. Ça a été, une catastrophe. Et vous savez, il y a eu le Hesel. Vous savez, Michel Platini a dit un mot important il n'y a pas longtemps. Il a dit, moi j'étais au Hesel avec la Juventus de Turin. Et puis il y a eu plus de 80 morts avec ce drame entre les supporters de la Juve et les supporters de Liverpool. Et puis j'ai arrêté ma carrière un an après. Alors que Michel était jeune, il avait 31 ans, parce qu'il ne pouvait pas supporter ce genre de choses. On ne va pas dans un stade, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'appelle souvent les supporters à être prudents, à faire attention. Il ne faut pas galvauder. Il ne faut pas diaboliser le football. Il ne faut pas détruire ce jeu qui est merveilleux. Et il y en a qui ont essayé et j'espère qu'ils ne réussiront pas.
L'an dernier, rapidement, le Parlement a enfin voté, comme l'avait promis François Mitterrand à l'époque, pour que le 5 mai soit un jour sans match national. Ce soir, il y a match, alors pas national mais européen, de Ligue Europa Conférence pour Marseille, qui va donc lui rendre un vibrant hommage à Furiani. Vous le disiez, c'est important ça aussi.
C'est important et c'est très très important. Alors peut-être que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais moi je suis contre cette décision de ne pas jouer le 5 mai. Il faut absolument que tous les 5 mai, quand il y a des matchs en France, et l'exemple le plus merveilleux, c'est l'Olympique de Marseille, qui a demandé à l'UEFA de faire une minute de silence, qui a demandé, je veux dire, que les joueurs
des
deux équipes, Feyenoord, jouent avec des brassards noirs. Et j'espère de tout mon cœur, pour conclure, que ce week-end, il y aura des hommages comme ça, je veux dire, dans les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, et notamment à la finale de la Coupe de France de football entre Nantes et Nice, samedi au Stade de France.
Merci beaucoup Jacques Vendroux d'avoir été avec nous ce matin en direct. On vous retrouve d'ailleurs ce soir dès 20h avec toute l'équipe des sports pour ce match OM Feyenoord à vivre en direct et une interview exclusive du président de l'OM, Pablo Longoria, à votre micro. Merci encore.
Europe Matin, Fanny Marceau.
6h21, le journal permanent Alban Le Prince.
En Ukraine, cessez-le-feu annoncé par l'armée russe pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui autour de la Syrie Azovstal de Mariupol. Selon le Kremlin, des couloirs humanitaires seront également ouverts. Une minute de silence, brassard noir pour tous les joueurs. Match hommage ce soir pour la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence entre Marseille et le Feyenoord. Hommage à la catastrophe de Furiani faisant 19 morts et plus de 2000 blessés. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Tension hier soir d'ailleurs sur le Vieux-Port. Entre supporters néerlandais et marseillais, bilan 7 interpellations.
Bonjour Amblin Roche.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
C'est l'heure de la partition et aujourd'hui, Michel Polnareff lance Polnareff, une exposition et un spectacle immersif à Paris. À cette occasion, on retourne à ses débuts en 1966 lorsqu'il est en couverture du premier numéro de Rock and Folk.
Et avec comme promesse sur la une du magazine, je cite, « aborder la musique rythmée d'aujourd'hui ». Jusqu'alors en France, le mensuel « Salut les copains » faisait la pluie et le beau temps de la presse musicale. Au sommaire du magazine Rock and Folk, Sonny and Cher, Donovan, Otis Redding ou encore les Beatles. Mais c'est un Français qui est en couverture. Le rédacteur en chef Philippe Quéclin explique qu'un groupe anglais était trop osé. Et puis Michel Polnareff, avec son apparence de beatnik, correspondait bien à l'époque. Il a 22 ans, il est mince, pâle, un air de Françoise Sagan avec ses cheveux blonds qui lui entourent le visage, des lunettes carrées, aux montures roses assorties à son pull ajusté. Une guitare est posée tout près de lui. Son premier disque est sorti 6 mois plus tôt et déjà un premier numéro 1. La poupée qui fait nom, enregistrée à Londres avec les deux futurs membres de Led Zeppelin, Jimmy Page à la guitare et John Paul Jones à la basse.
C'est une poupée qui fait non, 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 non.
C'est à Londres que Michel Polnareff a d'abord tenté sa chance.
Oui, pianiste virtuose, il vient de couper les ponts avec sa famille. Mais voilà, sa démo de The Doll Who Say No n'attire pas l'oreille des producteurs britanniques. Il rentre bredouille en France. Avec la ferme intention de percer, vagabond hippie dans le quartier de Montmartre, il participe au concours Disco Revue et remporte le trophée avec une chanson de Buddy Holly sur la scène de la locomotive. Il signe alors son premier contrat chez Barclay. Contrat aussitôt rompu quand on lui demande de coller plus à la tendance musicale yéyé du moment. C'est alors qu'un certain Lucien Maurice entre dans la danse.
J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh.
Lucien Maurice est le directeur de la programmation musicale d'Europe numéro 1 et il est l'un des plus grands découvreurs de talents de la place de Paris. Nouveau contrat de signé et la musique de Michel Polnareff passe en boucle tous les jours à 17h dans l'émission de Daniel Philippe Acquis. Inflexible, le chanteur ne changera pas de nom mais il cède sur un point. Lui qui souhaitait chanter en anglais, il accepte que ses textes soient finalement écrits en français avec certes quelques petites libertés.
Love me. Please love me. Je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Love me. Please love me. Je suis fou. Silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis.
La chanson qui donne son nom à son premier album en 1966 et qui lui permet de faire la une du tout premier numéro du magazine Rock and Folk cette même année, Michel Polnareff avec Love Me, Please Love Me. Il présentera le 2 juin prochain, ça devait être aujourd'hui mais c'est reporté, le 2 juin prochain, il présentera son spectacle musical immersif baptisé Polnareff. Merci Ombline, on se retrouve demain pour une nouvelle partition. Restez avec nous sur Europe 1, la matinale se poursuit dans un instant avec Pierre de Villeneuve.